Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs. Nous attaquons le 16e chapitre du tome 2 de Polar, Vin et Compagnie, avec nous dans le studio aujourd'hui l'indomptable Didier, l'irréductible Guy, et nous aurons tout à l'heure un invité surprise. On va parler évidemment littérature, mais nous commençons par le cinéma, avec Didier qui nous parle d'un film réalisé par un personnage qu'on connaissait plutôt pour son humour, qui est passé de l'autre côté de la caméra, comme disent les journalistes parisiens.
Oui, tout à fait. Bon, je suis ici avec vous pour vous parler de notre rendez-vous cinéma habituel. Bon, d'ailleurs, c'est le dernier de la saison. Et on a, un peu comme d'habitude, essayé de trouver un polar en marge des productions habituelles. Alors, on me présentait comme un indomptable. Je suis venu vous parler d'un film qui s'appelle Indomptable avec un S. Donc, du cinéaste Thomas Ngijol, oui. Il a changé de registre. Et il nous disait, j'avais envie de casser le plafond de verre de la comédie tout en assumant le passé. Et on pense qu'il y arrive assez bien dans ce film. Alors, il avait expliqué cette démarche, notamment à la quinzaine des cinéastes à Cannes, où il avait été invité à présenter son livre. Alors, il nous disait, je suis originaire du Cameroun, et faire un film dans le pays de mes parents et grands-parents, ce n'est pas rien, et c'est pour ça que ce film nous intéresse. Travailler avec des acteurs du pays aussi, la plupart des acteurs ne sont pas des professionnels, ce n'est pas rien, et puis c'est un gage de spontanéité. Donc dans ce film, il voulait mêler l'intime au populaire, et je crois que c'est réussi. Indomptable avec un S, un clin d'œil à l'équipe camerounaise de football, pour ceux qui suivent ce championnat, une déclaration de résilience, à vous d'en juger. En tout cas, c'est une adaptation d'un documentaire de Moscou Bouko, Un crime à Abidjan. Donc, c'est un film qui a du fond et qui repose sur des faits réels. Thomas, il interprète un commissaire de police sous tension et un père de famille dépassé. C'est un peu récurrent comme personnage. Il est constamment dans l'urgence, au bord de la rupture, prisonnier d'un passé fantasmé. Là, je pense qu'il parle de lui. Il peine à vivre dans le présent où les relations conflictuelle avec ses enfants, notamment sa fille Adeline, sont savoureuses. Un exemple des échanges. Quand il parle avec sa femme, « Nos enfants ont la vie facile, dit-il, à voir en Afrique. » Et elle lui répond, « C'est pour ça que tu veux la leur compliquer, s'indigne son épouse. » Donc il reste un fond d'humour. Donc, et je termine la présentation en mentionnant que c'est la deuxième fois qu'un des documentaires de Moscou Bouko est adapté en fiction. La première adaptation, c'était Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin, et elle était remarquable.
Un film qui reçoit, en tout cas en ce moment, on entend beaucoup parler, qui reçoit de très bonnes critiques.
Oui, tout à fait.
Tu nous rappelles du coup les dates?
Alors, ce film passera le jeudi 26 juin à 20h30, comme d'habitude.
Ok. Et on écoute donc une petite interview et un extrait de la bande-annonce.
Appel d'urgence, on signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumé.
Ça veut dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays.
C'est. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme, elle faisait les beignets haricots.
Commissaire Bilong.
Je voulais être réaliste en fait. Moi j'ai fait un film à normes humaines. Je voulais pas. C'est pas l'inspecteur Harry à Yaoundé. Donc à partir de là, je voulais rester dans la réalité. Mais je voulais surtout être à normes humaines, être fidèle à Yaoundé, être fidèle au Cameroun et pas faire des faits de style, pas magnifier, rendre le côté Black is beautiful, le Cameroun c'est le paradis, tout ça, et ni descendre le pays. J'ai fait un état des lieux, une sorte d'état de fait. sans exagérer d'un côté comme de l'autre.
Vous avez grandi en France ?
J'ai grandi en France, ouais, mais je vais au Cameroun depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai été au Cameroun très très souvent parce que le métier de mon père me le permettait. Donc j'ai jamais fantasmé le Cameroun parce que j'étais vraiment sur le terrain, si on peut dire, très tôt. Donc j'ai pas une envie d'aller trop loin dans on va dire... mon désir du Cameroun, de mettre le Cameroun en haut de la carte. C'est très réaliste et c'est ma façon aussi de dire au Cameroun que je suis très attaché à mes origines, à mon pays et que je l'aime aussi ce pays.
Son surnom c'est Blacky.
Tu es Camerounais, non ? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles.
D'un point de vue éthique, je ne pouvais pas aller au Cameroun et ramener des comédiens d'ici. C'est comme s'ils n'existaient pas là-bas. Je ne vais pas dire que ça aurait été insultant, mais limite quand même. Il y a des talents et puis c'était justement, moi, c'était un peu le challenge. Et aujourd'hui, quand je vois où le film atterrit et je vois certains retours, c'est une de mes plus grandes fiertés que oui, les gens aient apprécié le film et apprécié le jeu, apprécié les comédiens, parce qu'il y a eu vraiment des comédiens que je trouve talentueux. Et au-delà du Cameroun, je leur souhaite de justement... briser les frontières par leur talent parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent là-bas.
Sois bien présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout.
Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Faut avoir un peu de conscience de ça.
Tu me parles encore et toujours des traditions.
Arrête de traumatiser tes enfants.
Je protège
ma
famille. Mais
tu ne me parles pas fort.
Allez, revenons après le cinéma, revenons à la littérature. Donc, Guy, c'est un grand jour.
Pourquoi ?
Il est bête. Toujours. Donc ça y est, le jury du prix Robin Cook s'est réuni la semaine dernière et on a un nom enfin.
Alors pour mémoire, nous avions 5 candidats en lice. La disparition d'Hervé Snout de Olivier Bourdassar, La théorie des ondes de Pascal Chouffaut, Sève d'Olivier Gallien, La piste du vieil homme de Antonin Varenne et De neige et de vent de Sébastien Vidal.
Et le gagnant est,
au niveau des médiathèques, bibliothèques qui ont participé, dont le vote compte pour moitié, nous avons eu 46 votants cette année, et la majorité absolue, c'est le livre de Olivier Bourdassar, La disparition d'Hervé Snout, qui est sorti vainqueur.
Oui, mais ça, ce sont que les lecteurs.
Les lecteurs, et ensuite, il y a eu un jury qui s'est réuni. Et là aussi, une majorité s'est détachée pour un ouvrage qui est « La disparition d'Hervé Snout » d'Olivier Bourdassar.
Paru chez De Noël.
Paru chez les éditions De Noël.
Ah ben ça tombe bien parce que justement, on a Olivier qui est en ligne. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors on va tricher un petit peu parce qu'on t'avait déjà appelé pour t'annoncer la nouvelle. Donc voilà, ta réaction à chaud ?
À chaud, je suis enchanté, voilà.
Ça fait quoi de recevoir un prix
Ben, ça fait très plaisir. Je m'aperçois que ce livre et mon écriture séduisent des gens, des lecteurs, des lectrices, et vraiment ça me fait très plaisir, voilà.
Alors, j'allais dire un prix aussi modeste soit-il, parce que c'est vrai que bon, voilà, pour l'instant, on joue pas dans la cour des grands, mais est-ce que quelle que soit l'importance du prix, c'est la même réaction ou le même plaisir à le recevoir ou...
Oui, bien sûr, c'est le même plaisir, oui, peu importe l'importance du prix. Oui, moi, ça me... Enfin, j'en sais rien, après, je n'ai jamais eu de très très grand prix. Donc, voilà, on verra, je vous rappellerai quand j'aurai le concours.
Bah, tu vas pas nous appeler, tu vas venir nous voir la semaine prochaine, on parlera tout à l'heure du programme. Donc, félicitations, alors que l'inspecteur Dérif, qui t'avait passé sur le grill, vient de rentrer dans le studio.
Oh là là.
Ça fait du bien de tenir le coupable quand même, après des mois d'enquête.
Surtout qu'il est passé premier celui-là.
Ouais.
Bon, après, il y avait de fortes présomptions quand même. Hein.
Oui, ouais. Bon, c'est bien quand même d'avoir les preuves, hein. La main dans le poudriette, comme on dit chez les snoots.
Il faut quand même préciser que cette année, particulièrement cette année, le jury et le public ont voté, mais que tous les ouvrages ont eu beaucoup de voix et que c'était quand même relativement serré.
Ouais, c'était au sprint.
Oui.
On pourrait dire.
Voilà, quand même.
Non, c'est vrai que Olivier, tu partais un petit peu comme favori, mais il y a des outsiders. Ouais. Il y a des outsiders qui étaient pas loin derrière. Hein. Ouais. Voilà. Bon, après, on va pas dire le classement, ça a pas grande importance, mais en tout cas, c'est vrai que cette année, le choix avait été particulièrement léché et alléchant. Il y avait vraiment des romans de très bon niveau, quoi. Donc, on aura la chance de t'avoir parmi nous la semaine prochaine.
Oui.
Donc, vendredi et samedi prochain.
Donc, oui, vendredi prochain, Olivier va venir recevoir son prix à la médiathèque de Millau, à la Mesa. Suite à quoi, il fera une petite signature, peut-être, pour le public qui voudra avoir une dédicace. Ensuite, à 18h, il ira recevoir son prix officiellement à la librairie partenaire, à la librairie Syllabe rue du Mandarou, qui, là, à cette occasion-là, on pourra boire un petit coup, boire du vin, du Sancerre ou autre.
Presque du spectacle de rue, là.
Ça, c'est dans la rue que ça se passe, espérons qu'il le fasse beau. Et ensuite, il recevra son prix officiellement des mains de... On ne sait pas qui encore, mais ça viendra. Pour passer une soirée avec les membres de l'association et dès le lendemain matin au Turbin à Saint-Afrique pour faire une intervention à la médiathèque de Saint-Afrique aux alentours de 10h et le programme sera annoncé plus précisément dans la presse puisqu'on n'a pas encore finalisé toutes les dates, voilà, toutes les heures surtout. Voilà.
Alors tout à l'heure j'ai appris, le hasard faisant toujours bien les choses, on va t'amener dans un endroit qui est très sympa, où tu verras une très belle vue sur le fameux viaduc de Millau, sur la ville, etc., qui s'appelle Ping Pong le Toit, donc qui est effectivement sur le toit d'une ancienne usine, une ancienne mégisserie. Et ce soir-là, figure-toi qu'il y a une exposition, l'exposition d'une BD, une BD qui s'appelle Strange Fruit, hein, la fameuse chanson chantée par Billy Holiday. Et le dessinateur sera là.
Très bien.
Donc c'est vraiment le hasard. C'est organisé par une association partenaire qui s'appelle Aporia, avec laquelle nous avons l'habitude et le plaisir aussi de travailler. Donc voilà, ça va être une soirée très, très littéraire et noire aussi, par définition. Donc Olivier, moi j'avais aussi envie de parler d'Olivier Bordassard, le militant.
Oui.
Moi j'avais adoré le recueil de nouvelles sur l'environnement, la STOP.
Oui.
Que tu avais conduit en fait, où on retrouvait tout un tas d'auteurs sympathisants de Paul Harvey et compagnie, Bizien, Bieberfeld, Dankini, Delahaye, De Saint, Pedignelli.
Oui.
Quand on t'avait interviewé la dernière fois, en off, tu nous avais parlé d'un travail théâtral, puisque tu es quelqu'un qui vient du théâtre aussi.
Oui.
Avec des migrants.
Oui.
Une création. Tu nous avais fait part la dernière fois de tes soucis à programmer ce spectacle. Tu en es où ?
Alors, ce spectacle est en tournée actuellement. Son titre est « La patience des réfugiés ». Et c'est un événement construit à la manière d'une conférence, une conférence théâtralisée où il y a des acteurs qui jouent le rôle d'autres, des acteurs réfugiés qui jouent le rôle d'autres personnes réfugiées qui ont raconté leur histoire. Donc c'est une écriture qui a été construite autour de la prise de témoignages des personnes qui ont été demandeurs ou demandeuses d'asile. Voilà. Et donc c'est le trajet difficile, semé d'embûches, de quelques réfugiés qui sont arrivés en France et qui ont demandé l'asile et la protection de la France. Voilà. Et donc c'est un spectacle qui tourne là actuellement plutôt en région centre, mais on attend des dates et voilà, tout se passe bien pour le moment.
Et là, j'ai vu donc une annonce de sortie, Anna la Palestine.
Oui, Anna la Palestine, c'est un texte, comme son nom l'indique, sur la Palestine, sur l'histoire de la Palestine, sous la forme d'un long poème qui donne la parole à une petite fille qui s'appelle Anna et qui raconte l'histoire de ses grands-parents, de ses parents et d'elle-même depuis longtemps, depuis un siècle à peu près. Et ce texte est illustré par des œuvres à l'encre de Chine du peintre palestinien réfugié en France qui s'appelle Imrani et qui joue d'ailleurs aussi dans le spectacle sur les réfugiés. Et je suis très heureux de cette publication. D'une part parce que c'est un travail en duo quoi avec cet artiste Imrani et c'est un travail qui est publié par les éditions Tarabuste. Et les éditions Tarabuste, c'est quand même pas rien. C'est une des maisons d'édition de poésie les plus prestigieuses de France. Tarabuste a publié par exemple l'œuvre théâtrale et poétique complète d'un auteur qui s'appelle Louis Calaferte. Et Tarabuste vient d'obtenir le prix Goncourt de la poésie grâce à l'œuvre de James Sacré. Et donc je suis très heureux d'être publié par Tarabuste. C'est une maison qui fait un travail absolument sublime. D'un point de vue esthétique, du point de vue de du rapport aux mots, à la mise en page de ces mots-là, l'éditeur choisit des papiers particuliers, il travaille sur les graphismes et les couvertures vraiment comme un artiste. Il s'appelle Jamel Meskache. Il a créé les éditions Tarabuste il y a au moins 35 ans ou 40 ans. Et donc, Anna la Palestine sera disponible sur le stand Tarabuste au fameux marché de la poésie qui a lieu place Saint-Sulpice à Paris entre le 20 et le 22 juin prochain. Donc le 20, je serai avec vous, je ne serai pas à Saint-Sulpice. Mais voilà, d'autres livres commencent leur vie pendant que certains la poursuivent. Mmh. Et c'est très très bien. Voilà.
J'ai une question, c'est la première fois que vous éditez de la poésie ou c'est un premier essai de poésie?
Non, c'est pas un premier essai. J'ai été publié déjà une fois par les éditions Tarabuste, je crois que c'était en 2011, pour un texte qui s'appelle « Un festin nu », en hommage au magnifique auteur de la Beat Generation, William Burroughs. Et puis j'ai été aussi édité pour un texte poétique et théâtral aux éditions Collodion, qui sont des toutes petites maisons d'édition qui se situe dans l'Indre. Voilà. Donc, ce n'est pas mon premier essai en poésie.
Alors, avec tout ça, on n'a même pas parlé
d'Hervé
Snout.
Il va bien.
Il a disparu.
L'as-tu retrouvé?
Il va très bien. D'ailleurs, il sortira en poche chez Folio le 11 septembre.
Oh là, quelle date!
Eh oui.
Oh là là.
Ça va saigner.
Ça va saigner, comme le diront les joyeux bouchers dans la chanson de Boris Vian qu'on écoutera tout à l'heure après cette interview. Tu as une autre actu littéraire? Parce que bon, effectivement, les gens comprennent à travers cette... Enfin, il y en a qui te connaissent, mais ceux qui ne te connaissent pas comprennent que tu as quand même plusieurs cordes à ton arc. Donc tu as fait du théâtre, tu écris du polar, mais pas que.
Oui.
Tu fais de la poésie. Tu as une autre actu littéraire là en ce moment ou...
Alors l'actualité littéraire chez De Noël, pour le moment, c'est la sortie de mon roman « Un amour d'Élise », qui est sorti en mars, et voilà, qui vit sa vie maintenant, sans moi. et qui est l'histoire, en gros, pour résumer en quelques secondes, qui est l'histoire d'une vieille femme qui vient de perdre son mari. Elle a 99 ans et puis elle range les archives de son mari qui était écrivain et puis elle découvre un manuscrit dont elle ignorait complètement l'existence et ça l'étonne beaucoup, donc elle commence à lire ce manuscrit et elle s'aperçoit que son amour, son époux, son mari, l'homme de sa vie raconte dans ce manuscrit l'histoire de leur amour à eux deux et donc elle découvre des choses étranges.
Certains de l'assaut qui l'ont lu ont insinué qu'il pouvait y avoir un petit côté autobiographique.
Oui, il y a un petit côté autobiographique, mais enfin c'est pas le principal du livre. Disons que j'essaye après Appartement 816 et La disparition d'Hervé Snout, qui sont des romans très noirs, très noir, très sanglants, funèbres, je dirais, j'avais envie de souffler un peu et d'écrire une histoire d'amour. Voilà ce que j'ai fait.
Bon, super. Guy, est-ce que tu peux nous rappeler le programme et puis on va libérer Olivier ? Inspecteur, est-ce qu'on peut le libérer alors?
Ouais, bah je crois que c'est bon du moment qu'il répond à la convocation du vin.
Voilà. Ouais.
Du vin, la date, hein, pas du vin.
Donc le vendredi 20.
Il y en aura aussi. Ouais.
Le vendredi 20. Le vendredi 20, avant de boire du vin. Nous avons rendez-vous à la Mesa de Millau à partir de 17h pour la déclaration officielle de la culpabilité de Olivier Bourdassa pour l'affaire. La disparition d'Hervé Snout. Il faudra qu'il réponde. Alors le soir, nous allons manger à un endroit où il y aura du filet mignon au menu. Voilà.
Ah d'accord.
Pour ceux qui ont lu le livre, ils vont comprendre.
Voilà.
Les autres, il faut qu'ils lisent.
Donc voilà, en tout cas, si vous voulez rencontrer l'auteur Olivier Bourdassa, si vous voulez découvrir, retrouver Hervé Snout et puis aussi toute la production littéraire d'Olivier, ce sera donc le 20 et le 21 à Millau et à Sainte-Afrique. Donc, en musique, on va partir avec Boris Vian, chanson de circonstance et pas très originale, hein, à la Villette, voir les joyeux bouchers de la Villette. Et puis, pour le vin, on reste sur un Sancerre blanc, comme la dernière fois, pour
un
apprécier ton livre.
Un Sancerre blanc, ouais. Oui, c'est très bien.
Voilà,
oui.
Donc ce sera le domaine Vincent Doucet. Merci Olivier.
Bravo encore, bravo.
Bravo.
Merci beaucoup à vous.
Et à la semaine prochaine.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne, bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Alors, nous sommes avec Vincent Doucet, viticulteur à Sury-en-Vaux. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Alors, vous connaissez Millau, puisque vous avez participé au Salon des vignerons et des producteurs gourmands organisé par le Lions Club. Par contre, les Millavois et les gens du Sud-Aveyron connaissent peu le Sancerre, qui est le vin que vous produisez, et oui. Je ne suis pas sûr qu'il soit géographiquement suffisamment compétent pour le situer. Vous pouvez nous rappeler où se trouve la région de Sancerre ?
Ah bah oui, parfaitement. Donc Sancerre se trouve à 50 km au nord de Bourges. On est une commune du Cher, on est à 2 heures au sud de Paris. Et Sancerre se trouve le long de la Loire. On fait partie des appellations du vin du Centre-Loire.
Ah, c'est Centre-Loire, oui, c'est pas les vins de Loire hein, qu'on a...
Ah non, on est vers le début de la Loire. Donc d'être le long de la Loire nous donne quand même une certaine typicité. On a beaucoup de terrains argilo-calcaires, des terres blanches qui sont appelées des petites caillottes et des terres silex.
Et alors voilà. Le domaine, je le disais sur votre site, on donnera l'adresse. 4 générations.
Oui, on est la cinquième génération, nous.
Et voilà. Au départ, j'ai vu que c'était pas que vous faisiez pas que du vin, hein, vous étiez un petit peu...
Non, on faisait pas que du vin. Bah, à l'époque, il y avait de tout. Et après, dans les années 80, comme l'appellation s'est développée, 80, 90, mais chez tout le monde, hein, l'appellation Sancerre s'est développée, le blanc s'est démocratisé à peu près à ce moment-là et s'est fait connaître. Donc aujourd'hui, on est assez connu un peu partout. Ce qui fait qu'on est une appellation, je sais pas comment dire, assez connue, assez réputée, quoi.
Oui, c'est connu, mais c'est vrai que voilà. Ici, on n'en consomme pas, en fait.
Et en fait, c'est beaucoup plus connu pour le blanc que pour le rouge. Parce que Sancerre, c'est une petite appellation. Il y a environ 4000 hectares de terrain planté. On n'est que quelques communes autour de Sancerre. Il y a majoritairement du blanc. Ouais, 75-80% de blanc.
Ah ben justement, Olivier Bordassard, l'auteur de La disparition d'Hervé Snout, qui visiblement habite votre région, nous a conseillé le Sancerre blanc bien frais. Pour quelle raison, d'après vous ?
Parce qu'il a très bon goût. Dans un premier temps, un blanc bien frais, le Sauvignon, c'est un vin sec et très fruité, le Sancerre blanc. Je pense qu'il l'apprécie très largement à l'apéritif et éventuellement avec des poissons ou des coquillages. Mais à l'apéritif avec un crottin de chavignol, qui est le fromage local, passe très bien.
Donc le cépage, c'est le Sauvignon, alors hein ?
Sauvignon, 100%, oui.
Alors, vous faites
et
pas que...
Et pour les rouges, pardon. Nous sommes sur du pinot noir.
Oui, ce que j'allais dire, vous faites pas que du blanc, vous faites aussi du rouge et du rosé.
Oui.
Donc pinot noir, comme en Bourgogne.
Pinot noir, voilà, comme en Bourgogne.
Alors, je rappelle votre adresse mail, c'est doucet, doucet-sancerre, donc sancerre.com, enfin, l'adresse du site.com, voilà. Et ouais. Si les gens donc veulent avoir vos coordonnées, ils les trouvent effectivement sur votre site, sachant qu'effectivement, voilà. C'est un vin blanc, même si on le boit frais, il faut le consommer avec modération.
Ah bah, oui.
Ben écoutez, Vincent, je vous remercie.
Sinon, il ne faut pas hésiter de monter jusqu'à la cave.
Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.
Et de rien, merci à vous. Au revoir.
Voilà, un petit Sancerre blanc bien frais, ça fait du bien. Pour boucler ce 16e chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie, donc, on rappelle les rendez-vous le 20 et le 21. Venez rencontrer Olivier Bordassard, que vous soyez de Millau. Ce sera le 20 d'abord à la fin d'après-midi, à la Messa, puis rue du Mandarou, devant la librairie Syllab, et puis pas très loin du bar à vin Cépage, puisque voilà, pour l'arrivée, hein. Et le lendemain, ce sera à Sainte-Afrique, pour rencontrer Olivier Bordassard et parler avec lui de son livre « La disparition d'Hervé Snout ». Et le 26, cinéma, au cinéma de Millau, le film « Les Indomptables » de Thomas Nguijol, le 26 juin à 20h30. Merci de nous avoir écoutés. Merci Guy d'avoir été là. Didier et l'inspecteur des RIF ont dû repartir.
Mais rendez-vous le 20, toujours.
Rendez-vous le 20, le 21 et le 26. Ça, on l'a déjà dit. Et puis, sur les ondes de Radio Larzac, mardi prochain à 16h ou en podcast sur radiolarzac.org.